Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, la Sainte Église aujourd'hui fête la solennité de la fête de l'Épiphanie, l'Épiphanie Notre Seigneur. Cette fête est certainement une des plus importantes de l'année liturgique. Elle se place au-dessus même de la fête de Noël, sur le plan de la hiérarchie des fêtes. Ça semble un peu étonnant. Et il faut bien comprendre la raison. Pourquoi ? Parce que la tradition fête en ce jour trois éléments très importants qui manifestent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Épiphanie, c'est un mot grec qui veut dire manifestation. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour manifeste publiquement sa divinité. D'abord, bien sûr, par l'arrivée des rois mages. Les rois mages vont offrir à notre Seigneur Jésus-Christ à la fois l'or, la myrrhe et l'encens. Je vais expliquer l'or pour le roi, la myrrhe pour l'homme, et l'encens pour la divinité. Si vous reprenez l'antienne des vêpres que nous chanterons cet après-midi, à la fin des vêpres, l'antienne est magnifique, justement, il est bien rappelé l'importance de ces trois manifestations. La deuxième manifestation étant le premier miracle qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ à Cana de Galilée. C'est à partir de ce jour-là, lorsqu'ils ont vu le miracle, premier miracle de notre Seigneur, donc la transformation de l'eau en vin, et ce fut la manifestation, évidemment, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est à partir de ce jour que ses apôtres crurent en lui. Et c'est également en un 6 janvier, selon la tradition, que notre Seigneur Jésus-Christ fut baptisé. Il fut baptisé au Jourdain par Saint Jean-Baptiste, et après ce baptême, encore une fois, pour bien manifester cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père a parlé publiquement. Tous les assistants à ce baptême ont entendu une voix du ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, suivez-le, acceptez-le, acceptez sa doctrine. » Alors, essayons de voir un petit peu le pourquoi de ces trois dons, l'or, l'encens et la myrrhe. N'oublions pas que derrière ces choses matérielles qui sont offertes à notre Seigneur Jésus-Christ, il y a bien sûr quelque chose de spirituel qui est représenté. Pas simplement au niveau des mages, d'ailleurs, mais aussi pour nous. Et la question que nous devons tous nous poser en ce temps d'épiphanie, c'est quel est le don que le bon Dieu attend de moi ? Les rois mages, il a attendu l'or, l'encens et la myrrhe. Les bergers, il a attendu autre chose. Le bon Dieu demande à chacun d'entre nous des dons différents. Le bon Dieu n'est pas allé demander aux pauvres bergers qui sont venus l'adorer à la crèche l'or, l'encens et la myrrhe, c'est évident. Par contre, il a demandé aux rois mages cet or, cet encens et cette myrrhe. Et à vous et à moi, que le bon Dieu va-t-il demander ? Donc il faut vraiment se poser cette question élémentaire, quel est le don particulier, la chose particulière que le bon Dieu me demande de lui donner ? Quelle est la chose que je dois couper dans ma vie de tous les jours, que je dois éloigner de ma vie de tous les jours pour pouvoir l'offrir à notre Seigneur Jésus-Christ qui attend de moi quelque chose de bien précis en cette fête de sa manifestation ? La deuxième question que nous devons nous poser est la suivante aussi, comment dois-je moi-même manifester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ? Notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa divinité, et puisque nous sommes membres de son corps mystique, nous aussi, dans la vie de tous les jours, nous devons manifester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez les ennemis de l'Église en face de nous. Regardez les membres du gouvernement, regardez les membres de tous ceux qui ont le pouvoir politique en France, ça peut être chose près. Il n'y a pas une seule journée sans qu'ils manifestent leur haine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une seule journée qui passe sans qu'ils manifestent leur haine de la véritable Église, l'Église catholique. Alors si eux, ennemis de l'Église, ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne cherchent qu'à poignarder le Sacré-Cœur, si ces gens-là manifestent constamment leur haine contre le Christ, je pense que la moindre des choses que nous puissions faire, nous catholiques, nous les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes fils de Dieu par le baptême, enfants de Dieu par le baptême, la moindre des choses que nous puissions faire, c'est justement de manifester publiquement notre foi, notre charité, notre espérance, notre foi à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à nous si justement nous ne manifestons pas cette divinité dans tous les milieux, dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, la façon de nous comporter, la façon de nous habiller, la façon de parler, la façon d'éduquer nos enfants. Il faut vraiment que les gens de l'extérieur qui voient un catholique aujourd'hui puissent se dire « ce gars-là, il est différent. Cette personne est différente. Pourquoi est-elle différente ? Parce que nous avons en nous, mes bien chers frères, quelque chose d'extraordinaire. » C'est quelque chose d'extraordinaire que nous avons, vous et moi, en nous, c'est la grâce du baptême. Cette grâce du baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Un enfant, un fils de famille, a le devoir de respecter sa famille, de respecter ses parents. Un fils de famille a le devoir de dire à ses parents qu'il l'aime. Je comprends parfaitement qu'un musulman ou un bouddhiste qui n'est pas enfant de Dieu par le baptême ne se sente pas obligé d'honorer notre Seigneur Jésus-Christ puisqu'il n'a pas la foi. Mais nous qui sommes enfants de Dieu par le baptême, nous avons l'obligation de manifester notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'un péché commis par un ami de notre Seigneur Jésus-Christ, un fils adoptif de Dieu par le baptême, est bien plus grave que le même péché commis par quelqu'un qui n'est pas fils de Dieu par le baptême. Et certainement, un des crimes les plus graves qui soient, c'est de prétendre justement que tous les hommes sont enfants de Dieu. Alors que tous les hommes sont créés par Dieu, mais seuls les baptisés ont reçu cette marque extraordinaire, marque du sacrement de baptême, qui fait de nous des enfants de Dieu. Vous savez qu'une certainement un des blasphèmes les plus graves de Bergoglio à Rome a été celui-là, de prétendre que tous les hommes sont des enfants de Dieu, ce qui est faux. Alors essayons de voir pourquoi la Sainte Église insiste tant sur ces trois dons. C'est certainement un des points de la doctrine de l'Église sur lequel les pères de l'Église insistent le plus. Quand on va dans les ouvrages qui expliquent le sens mystique de l'Écriture sainte par les pères de l'Église, surtout par exemple dans la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin ou dans Cornelius à Lapide qui a expliqué justement très bien tout cela en reprenant pour chaque verset de la Bible le sens donné par les pères, eh bien je suis moi-même stupéfait de voir que certainement un des points sur lesquels les pères ont le plus parlé, c'est précisément ce point-là, le sens des trois dons, l'or, l'encens et la myrrhe. Donc, je voudrais vous résumer en quelques mots, par manque de temps, un petit peu l'enseignement des pères sur ce sujet. L'or, par exemple. Pourquoi Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a-t-il reçu l'or ? Bien parce que l'or représente deux choses, d'après les pères. L'or représente bien sûr d'abord le pouvoir royal. Et l'or représente aussi le don de sagesse. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre que la sagesse incarnée parce qu'il est Dieu. Étant Dieu, il est créateur du monde. Étant Dieu, il est créateur de tous les hommes. Si nous ne pouvons pas dire que tous les hommes sont enfants de Dieu par le baptême, parce que malheureusement des millions de personnes ne sont pas baptisées, par contre nous pouvons dire et nous devons dire que tous les hommes ont été créés par Dieu. Donc même quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce du baptême, étant créé par Dieu, devrait en principe justement respecter l'Église catholique et trouver grâce à l'intelligence qu'il a en son âme, comme puissance de son âme avec des grâces spéciales que le bon Dieu donne même à des non-catholiques, il devrait pouvoir justement arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi, pas simplement des catholiques, encore une fois, il est roi de tous les hommes parce que c'est lui qui les a créés. Il est roi de tous les hommes parce que personne ne peut être sauvé sans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut rentrer au ciel sans prendre la porte qui est le Christ. Il est sur la terre, il est la lumière du monde. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi par nature parce qu'il est créateur, il est aussi le rédempteur de tous les hommes. La seule personne qui peut racheter les péchés des hommes, c'est une personne humaine et divine à la fois, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, est à la fois homme, à la fois Dieu, et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ peut effacer les péchés du monde. Il est le seul à pouvoir faire ça. Bouddha ou Mahomet ou Luther ne sont incapables d'effacer le moindre péché. Donc l'or représente justement ce pouvoir royal. À ça nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ étant roi, veut être roi publiquement. Il n'est pas simplement roi de façon privée. Il n'est pas simplement roi dans notre cœur, de façon intime. Notre Seigneur Jésus-Christ veut être roi, reconnu roi de façon publique, dans la société elle-même, ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ va recevoir publiquement ce cadeau royal, à savoir l'or réservé au roi. Et les pères de l'Église nous disent aussi que cet or représente la sagesse, le don de sagesse, le plus grand des dons du Saint-Esprit. Et si s'il est un don qui est important, c'est bien celui-là. C'est à tous les dons du Saint-Esprit sont réunis, sont ensemble, travaillent ensemble, ne pas les séparer. Dans le sens que s'il y a un seul des dons qui nous manque, on n'a pas les dons du Saint-Esprit. Et si on a le plus grand, on a le plus petit. Et si on a le plus petit, on a le plus grand. C'est pour ça que le plus petit des dons du Saint-Esprit, le don de crainte de Dieu, est le début de la sagesse. Mais c'est ce don de sagesse représenté par l'or une importance fondamentale aujourd'hui. Quel est le but du rôle, quel est le rôle du don de sagesse? Pourquoi le bon Dieu nous a-t-il donné, nous donne-t-il, surtout pour la Sainte Communion, et à chaque fois que nous le confessons aussi, une augmentation de ce don de sagesse, ou le don de sagesse pour ceux qui l'ont perdu par le péché mortel? Mais le don de sagesse a pour but, si vous voulez, de nous faire comprendre la distinction des choses, de distinguer la valeur des choses, faire comprendre où sont les choses importantes et où sont les choses secondaires. Et s'il y a un domaine dans lequel l'homme moderne est complètement perdu, c'est bien ce domaine-là. Qu'est-ce que fait le démon? Le démon essaie de nous faire croire que les choses importantes sont secondaires et que les choses secondaires sont importantes. Et donc le monde moderne va essayer de nous faire remplir notre cœur, de remplir notre cœur avec des choses secondaires pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses importantes. Eh bien, le don de sagesse, c'est là pour nous aider à comprendre où sont les choses importantes, où sont les choses qui sont vraiment, pour lesquelles il faut vraiment nous battre. Voilà le but du don de sagesse. Donc, le don de sagesse, le don de sagesse nous rend la hiérarchie des valeurs. D'abord les choses surnaturelles, puis les choses naturelles doivent être au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Le don de sagesse a un deuxième but qu'on oublie aussi beaucoup trop. Le don de sagesse est un don qui va nous aider à comprendre où sont les choses belles. S'il est une caractéristique de ce monde moderne, je pense qu'on peut dire que c'est la laideur. Si vous regardez les bâtiments modernes. Et ceci est valable pas simplement pour des choses matérielles, mais aussi pour les choses surnaturelles. Vous voulez connaître, vous arrivez dans une ville, dans un village, vous voulez savoir, dans une ville surtout, vous voulez savoir où est l'église de Vatican II, cherchez le bâtiment le plus laid de la ville. Dès que vous l'avez trouvé, vous allez trouver l'église de Vatican II. C'est comme ça que ça se passe. Et donc le don de sagesse va nous aider à aimer les choses belles. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la beauté. Les choses belles remontent à notre Seigneur Jésus-Christ, de même que les choses laides remontent vers le démon, descendent vers le démon plus exactement. Pour ceux qui ont fait les exercices de Saint-Ignace, rappelez-vous, c'est un point très important dont parle Saint-Ignace. Un des points par lesquels je peux reconnaître que le bon Dieu me parle, c'est l'amour de la beauté. Eh bien, le don de sagesse va nous aider justement à comprendre, à distinguer entre les choses belles et les choses laides. Et là, encore une fois, c'est absolument nécessaire pour conserver un esprit contre-révolutionnaire. Parce que qu'est-ce que fait la révolution? La révolution essaie de nous faire croire que les choses belles sont laides et que les choses laides sont belles. C'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne. Allez faire un tour dans les grands magasins, vous serez stupéfait de voir que pendant les périodes de fêtes, comme la période actuelle, la fête de Noël, comment les grands magasins poussent sur la laideur et plus les choses sont laides, plus les païens veulent les acheter. Alors qu'au contraire, les choses belles, nous remontent intellectuellement parlant vers celui qui est à la source de toute beauté, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Essayez de trouver une église du Moyen-Âge qui est laide. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Une église du Moyen-Âge qui serait laide, un tableau du Moyen-Âge qui serait laid, aurait immédiatement été brûlé. Non seulement le tableau, peut-être bien aussi celui qui ne l'aurait pas. Pourquoi? Parce que, justement, il ne pouvait pas supporter la laideur, parce que la laideur rappelle le démon. Alors, mes bien chers frères, il nous faut justement utiliser ce don du Saint-Esprit, ce don de sagesse pour nous aider à remettre de l'ordre dans notre âme. Si notre âme est dans un désordre monstre, en général, la plupart du temps, c'est parce que le don de sagesse n'est pas là. Et comment disparaît le don de sagesse? Le don de sagesse disparaît précisément par le péché mortel. Parce que les dons du Saint-Esprit sont incompatibles avec le péché mortel. Donc dès que j'ai le malheur de commettre une faute grave, je perds tous les dons du Saint-Esprit. Au contraire, dès que je retrouve l'état de grâce par une bonne confession avec la grâce du bon Dieu, eh bien, c'est tous les dons du Saint-Esprit qui reviennent, surtout le don de sagesse qui mène tous les autres. Et donc, je vais recomprendre l'importance des choses importantes, des choses qui doivent être placées en premier lieu dans ma vie. Et je comprendrai où sont les choses belles et l'obligation dans laquelle je suis d'éliminer de ma maison, d'éliminer de mon âme les choses laides qui me poussent vers le démon. Le deuxième don qu'a reçu notre Seigneur Jésus-Christ des rois mages, c'est le don de l'encens. L'or représente le roi, le pouvoir royal, l'encens représente la prière, donc la divinité. C'est pour cela que pendant la messe chantée, on utilise de l'encens. Cette fumée qui s'échappe de l'encensoir qui monte vers le ciel représente la prière qui monte vers le ciel, qui monte vers le bon Dieu. Et donc c'est cet encens, si vous voulez, nous rappelle, donné par les rois mages à notre Seigneur Jésus-Christ, nous rappelle la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas un Dieu parmi d'autres dieux, il est l'unique vrai Dieu. Et toutes les autres dieux, les autres divinités sont des fausses divinités. De même, l'Église catholique, mon bien cher frère, n'est pas une Église parmi d'autres, elle est l'unique véritable Église. En dehors de l'Église catholique, il ne peut y avoir de salut, parce qu'en dehors de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut y avoir de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux qui ne tolère pas que nous partagions sa gloire avec un faux Dieu. Et donc cet encens qui est donné par les rois mages à notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle deux choses. D'une part, l'importance de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes catholiques, c'est parce que nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas Dieu, toute l'Église catholique n'aurait aucune raison d'être. Donc d'une part, nous fait comprendre l'importance de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et d'autre part, nous fait aussi comprendre la tragédie des péchés contre le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Et donc nous devons nous aussi recevoir et accepter dans notre cœur, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait dans la crèche, notre âme étant une petite crèche, et bien nous devons nous aussi recevoir le don de l'encens, à savoir faire très attention d'éviter les péchés les plus graves que nous puissions commettre, à savoir les péchés contre le premier commandement, tous les péchés d'idolâtrie, l'adoration d'une faute d'une créature, le péché de sacrilège par lequel nous profanons une chose consacrée au bon Dieu. Et également, nous dit Saint Pélisse dans son catéchisme, l'ignorance coupable des vérités de la foi. Parce que je sais que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu, je me dois évidemment d'étudier mon catéchisme, je me dois d'étudier la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ pour préparer mon âme, mon intelligence surtout, à lutter contre les erreurs modernes. Enfin, le troisième don qui est donné par les rois mages à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le don de la myrrhe. Pourquoi la myrrhe ? La myrrhe était un parfum d'Arabie qui était utilisé pour maintenir les corps des morts sans corruption. Donc les corps des morts étaient couverts de ce parfum dans de nombreux pays du Moyen-Orient, justement, pour que la putréfaction ne se fasse pas. C'est des pays très chauds qu'il fallait protéger les corps des morts pour empêcher leur pourriture trop vite, leur décomposition trop rapidement à cause de la chaleur. Et donc on faisait une espèce d'onction avec cette myrrhe pour justement préserver les corps de la corruption. Et donc la myrrhe représente quoi ? La myrrhe représente l'humanité. La myrrhe représente l'humanité parce que notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois Dieu et à la fois homme. Et il a voulu être homme en tout comme nous. Il n'est pas un homme un peu extraordinaire, un surhomme, il est un homme comme vous et moi. Mais en même temps, Dieu, c'est là tout le mystère de l'incarnation. Tout en étant homme comme vous et moi, le bon Dieu a voulu que son humanité soit unie à sa divinité. Il est deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être homme en tout comme nous, sauf bien sûr pour le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, n'a pas été marqué par l'ombre d'un péché venir, bien entendu, bien sûr que non. Et donc cette myrrhe nous rappelle l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les pères de l'Église disent également que cette myrhe rappelle le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est prêtre parce qu'il est homme, homme-Dieu. Pour être prêtre, il faut être homme. Notre Seigneur Jésus-Christ est souverain prêtre parce que justement il a voulu unir sa divinité avec l'humanité. Et c'est par cette union hypostatique entre l'humanité et la divinité dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ que notre Seigneur Jésus-Christ devient prêtre. Donc au moment précis où le Saint-Esprit s'incarne dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, Annonciation, c'est à cet instant précis que notre Seigneur Jésus-Christ est devenu grand prêtre. Et le prêtre, c'est le sacrificateur. Le prêtre, c'est celui qui s'offre en sacrifice. Dieu ne peut pas s'offrir en sacrifice dans le sens que Dieu ne peut pas mourir. Sacrifice, c'est quoi ? Un sacrifice, quand le sacrifice consiste à tuer une victime, la victime c'est notre Seigneur Jésus-Christ, tuer la victime pour séparer son corps et son sang, la messe étant un sacrifice, il y a donc séparation sacramentelle entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi il y a deux consécrations pendant la Sainte Messe. Eh bien, cette mire nous rappelle justement que notre Seigneur Jésus-Christ est homme, il est homme pour mourir. Notre Seigneur Jésus-Christ se fait tout petit dans le sein de notre Sainte Vierge Marie pour pouvoir mourir. Il devient homme et apparaît dans la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ avec son humanité unie à sa divinité pour pouvoir mourir sur la croix le jour du Vendredi Saint, 33 ans plus tard. Et donc cette mire nous rappelle aussi, nous disent les pères de l'Église, l'importance fondamentale pour nous de garder l'esprit de pénitence. Parce que justement nous sommes hommes, que l'homme... Dans son humanité, quand cette humanité n'est pas unie à la divinité, cette humanité que nous avons, que nous sommes hommes, donc notre corps est voué à la destruction, notre corps est voué à la putréfaction. Donc dès qu'un cœur, un homme comme nous, vous et moi, nous mourons, eh bien, il va y avoir, après la séparation de l'âme et du corps, l'âme va être jugée par le bon Dieu, mais le corps va rester au cimetière, et dans les cimetières, va être transformé en poussière, mangé par les vers. Eh bien, cette décomposition du corps jusqu'au miracle de la résurrection générale à la fin des temps, lorsque tous les corps vont ressusciter d'entre les morts et se réunir à leur âme correspondante, eh bien, cette décomposition des corps est marquée justement par la mire. La mire nous rappelle l'importance de la vertu de pénitence. Si nous ne faisons pas pénitence, notre âme va se décomposer littéralement comme le corps se décompose si on ne place pas, si on ne couvre pas ce corps de la mire. Donc la mire qui préserve le corps de la putréfaction matérielle représente le sacrement de pénitence qui préserve le corps spirituel, c'est-à-dire notre âme de toute putréfaction, à savoir du péché. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, nous devons bien vérifier que nous donnons à notre Seigneur Jésus-Christ et l'or, et l'encens, et la mire. Nous rappelons que notre Seigneur Jésus-Christ est homme, nous rappelons donc que nous aussi nous devons faire pénitence, parce que nous sommes hommes et que notre corps humain va se décomposer, donc on a la nécessité absolue de faire pénitence, de se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, donc savoir offrir l'encens, et de se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est or, et on donne l'or à notre Seigneur Jésus-Christ, pardon, parce qu'il est Dieu. C'est saint Augustin qui fait remarquer que beaucoup d'hommes ne veulent pas donner les trois dons. Le bon Dieu exige de nous les trois dons, attention, mes bien chers frères, mes bien chers amis. Le bon Dieu ne se contente pas de donner l'or et l'encens. Beaucoup de gens qui sont comme ça. Ah bien, donner l'or et l'encens, mais la mire, je ne veux pas donner parce que je n'ai pas l'intention de faire pénitence. Je ne veux pas donner la mire parce que, comprenez, la mire représente la pénitence, je ne veux pas faire pénitence. Et puis la mire représente l'humanité. Moi, je ne crois pas à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa passion est apparente, n'est pas une véritable passion. Deuxième hérésie, de dire, moi je veux bien donner l'encens à la mire, mais l'or je ne veux pas donner. L'or je garde pour moi parce que je refuse de reconnaître le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On vit dans un monde de païens, donc notre Seigneur Jésus-Christ ne peut plus régner aujourd'hui, donc je refuse ce règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, je refuse de donner l'or. Et enfin, le troisième groupe d'hérétiques, ce sont ceux qui refusent de donner l'encens. On veut bien reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme homme, mais pas comme Dieu. Et le bon Dieu attend de nous l'or, l'encens et la mire. Parce qu'il est roi, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est homme. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce qui est tellement importante pour nous, cette grâce de savoir donner les trois dons. De savoir donner l'or, l'encens et la mire. Et pour pouvoir donner ces trois dons, on va commencer par les avoir. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Nemo dat quod non habet, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc vérifions que j'ai en mon cœur l'homme, l'or, l'encens, la mire pour pouvoir les apporter à notre Seigneur Jésus-Christ et déposer devant la crèche, dans cette petite crèche ici que nous avons, on voit bien au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied du de l'enfant Jésus, de l'enfant Dieu. On voit ces trois petites cassettes. La première qui contient l'or, la deuxième l'encens, la deuxième la myrrhe. Parce que les rois mages sont venus, ont vu un enfant et ont reconnu derrière cet enfant un roi, un dieu et un homme. Alors si nous avons du mal justement à donner ces trois dons, passons par la très sainte Vierge Marie. Au pied de la crèche, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas simplement les rois mages, l'or, l'encens, la myrrhe des rois mages, il y a quelqu'un d'autre qui est là. C'est quelqu'un d'autre qui est là, c'est la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, c'est elle qui est justement chargée de nous rappeler qu'on doit offrir ces trois choses. À la porte, lorsqu'on veut rentrer dans la crèche, elle nous demande, est-ce que vous avez l'or? Est-ce que vous avez l'encens? Est-ce que vous avez la myrrhe? Peut-être que nous allons dire, ah, j'ai oublié l'or. On va retourner chez soi pour chercher l'or. Peut-être que j'ai oublié la myrrhe. Peut-être que j'ai oublié l'encens. La très sainte Vierge Marie, vérifie, attention, il faut les trois choses. Cet enfant nouveau-né, que vous allez voir, enveloppé de l'ange, qui semble apparemment un enfant sans aucun pouvoir, attention, il est roi, il est Dieu et il est homme. Donc il faut les trois choses. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons ces grâces de foi, d'espérance et de charité. Demandons ces grâces de foi, d'espérance et de charité, justement, pour amener avec nous, amener au pied de la croix notre foi, la divinité, en l'humanité et en la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il nous faut comprendre, mes bien chers frères. Je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, ça prendrait beaucoup de temps, mais il y a aussi des textes magnifiques des Pères qui expliquent justement que l'or, l'encens, la myrrhe représentent aussi les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Nous demandons à la Sainte Vierge Marie de venir avec nous, et si nous n'osons pas placer au pied de la croix, au pied de la crèche, l'or, l'encens et la myrrhe, parce que nos mains sont toutes sales, alors passons par la très sainte Vierge Marie, c'est elle qui va venir déposer au pied de son Fils divin, son enfant Dieu, elle va venir déposer l'or, l'encens et la myrrhe. L'or au roi, l'encens à Dieu et la myrrhe à l'homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.